des mots qui nous semblent nouveaux, des mots qui n'étaient pas dans le langage courant quand on était adolescent. L'homophobie, par exemple, c'est un terme qui m'aurait permis de penser mon expérience comme faisant partie d'un système de domination et d'oppression dont moi, qui suis né à la fin des années 70, avec le recul, je n'avais aucune idée. Parce que sans ce mot, j'avais aucun moyen de le désigner, c'est-à-dire de le voir, de le concevoir, de le penser. Sans doute que ça m'aurait un peu aidé. Je pense aussi au mot consentement, mais pas seulement. Je pense au mot forceur ou frotteur. Je pense au harceleur. Comment voulez-vous en faire autre chose que des exceptions si ces mots sont pas connus, s'ils sont pas reconnus, s'ils sont pas partagés? Et vous savez, quand j'entends tel adolescent dans ma famille expliquer à mes parents qui sont nés en 1950 des mots en anglais tels que mansplaining, manspreading ou mantrupting qui renvoient à l'occupation de l'espace physique ou symbolique par les hommes au détriment des femmes, quand j'entends mes parents leur répondre « Ah oui, c'est vrai !» Quand je les vois s'étonner du fait qu'il y ait un mot pour dire ça précisément, mais je me dis qu'on a quand même un peu avancé, parce que quand on a un mot pour désigner quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose existe. Et ces mots, c'est pas qu'ils n'existaient pas quand j'étais adolescent, c'est juste qu'on ne les employait pas, donc ce qu'ils désignaient n'existait pas. À 15 ans, moi, j'aurais répondu « à tes souhaits » si on m'avait parlé de patriarcat.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a toujours pesé ses mots, réalisatrice et productrice, actrice quelque temps, mais surtout autrice, féministe. Elle interroge le politique par le prisme de l'intime. Certains de ses livres, comme Porno Manifesto, And Sex We Trust, Là où les putains n'existent pas, finaliste du prix Albert Londres, ou encore Libre, manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, récemment adapté en mini-série pour Arte, on fait date. Dans Les cœurs insolents, un très beau roman graphique illustré par Audrey Lainé, elle revient sur son adolescence entre exaltation, première fois, misogynie et violence qui passait pour ordinaire. Bonjour Ovidie.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, c'est un grand plaisir. Que nous raconte, je me suis demandé, l'apparition, ou plutôt souvent la réapparition d'un mot ou d'une expression dans le langage courant? Que nous raconte au fond l'emploi d'un mot dans le langage courant?
Déjà, ça permet de l'acter, ça permet, parce qu'effectivement, ce qu'on nomme existe et ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Et c'est vrai que ce qu'on raconte dans Les cœurs insolents, c'est que moi, je fais partie, je crois qu'on est né pratiquement la même année, hein,
oui,
Augustin.
Oui.
Moi, je suis né en 80 ou
79.
En 79. Voilà, on est de la même génération, on est de cette génération qui était adolescent dans les années 90. Et toutes ces notions-là, donc notion de consentement, notion fondamentale, c'était une notion qu'on n'employait pas. C'était même pas dans notre sphère de pensée. Pour nous, un violeur, c'était l'inconnu dans une ruelle. On n'arrivait pas à concevoir que, le violeur, c'était aussi notre petit copain, celui qui nous fait boire, c'est tout ça.
Alors précisément, ce mot consentement que vous interrogez dans Les cœurs insolents, que traduit la généralisation de son emploi aujourd'hui?
Encore une fois, qu'on prend acte du problème, qu'on fait état quand même d'une certaine situation. Je pense qu'avant, on mettait un mouchoir dessus. C'est ça, en fait, ce que ça raconte. C'est qu'aujourd'hui, on a levé ce mouchoir, on l'a retiré, et on a pris conscience de ce qui n'allait pas, finalement.
Oui. Vous dites que beaucoup d'hommes de notre âge, tous les deux, ont du viol ordinaire sur les mains.
Oui.
Le viol ordinaire, qu'est-ce que c'est?
Le viol ordinaire, c'est par exemple, c'est faire boire sa petite copine et abuser d'elle pendant qu'elle est un peu pompette. Le viol ordinaire, c'est abuser de ce qu'on appelait avant, et aujourd'hui c'est une notion qui se perd, Dieu merci, mais de ce qu'on appelait la salope du lycée. Dès qu'une fille commençait à coucher un peu, elle était considérée comme la salope du lycée, et tout à coup elle était en danger physique, hein, des histoires sordides comme ça dans les lycées, moi j'en ai à l'appel.
Alors qu'aujourd'hui les adolescents,
c'est ça, du viol ordinaire.
Ils sont au courant de ce que c'est que le slut-shaming, justement. J'ai un neveu qui m'en a parlé récemment.
Mais je trouve ça formidable, des notions comme le slut-shaming, donc le fait de faire honte, littéralement faire honte à quelqu'un pour sa sexualité. C'est une notion qui aujourd'hui est rentrée dans leur langage, mais qui est rentrée dans leur langage aussi grâce aux réseaux sociaux, faut pas l'oublier, parce que souvent on diabolise les réseaux sociaux, on dit oh là là, mon Dieu, les jeunes aujourd'hui sont en perdition à cause du portable, de machin et tout ça, mais n'empêche que les réseaux sociaux leur ont permis d'avoir accès à des notions importantes comme le slut-shaming, entre autres.
Ovidie, ce contexte culturel qui autorise et banalise les violences faites aux femmes, cette culture du viol en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui, malgré certaines avancées, certaines remises en question, continue de les encourager encore aujourd'hui?
Déjà, je pense qu'il y a toujours un vieux monde qui est en place et qui grince des dents. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes aussi qui n'ont pas envie de céder, leurs prérogatives. Il y a aussi une histoire générationnelle. Honnêtement, notre rapport au monde, là, ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui ont par exemple l'âge de ma fille, ou ceux que je peux voir quand je fais des interventions au lycée, qui ont 15-16 ans, ils ont un rapport au monde qui est tout à fait différent que, je sais pas, ma génération à moi, déjà, et aussi la génération de mes parents. Ils ont un rapport, déjà, que je trouve... Alors, le mot... on dit, on utilise trop, mais ils ont un rapport un peu plus bienveillant à l'autre. Oui. Et ils sont beaucoup plus vigilants à ne pas heurter l'autre. Enfin, pour eux, par exemple, l'homophobie ou le sexisme, c'est des trucs de daron, quoi. C'est des trucs de vieux, tout ça. Ils sont en train de le dépasser. Donc, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui fait que ça résiste? Ben, ce qui fait que ça résiste, c'est qu'il y a encore le vieux monde qui est en place. Mais moi, je mets tous mes espoirs dans cette génération-là que je trouve vraiment porteuse d'espoir et incroyablement positive.
Mais pourquoi le viol, par exemple, est-il toujours encore pour certains un objet de fantasme?
Ah, fou. Alors là, question. Bah, déjà parce que effectivement, il est toujours représenté, il y a une certaine forme de culture du viol qui est représentée dans l'ensemble de notre environnement médiatique et culturel. Mais après, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui fantasment dessus? Je sais pas, le viol, est-ce que c'est une histoire de fantasme? Est-ce que c'est une histoire de sexualité? Ou est-ce que c'est vraiment une histoire de domination avant tout? Moi, oui. Je pense que c'est plutôt une histoire de domination.
Mais c'est quelque chose que vous interrogez depuis longtemps. Je pense tout de suite à votre documentaire Pornocratie, dans lequel vous parliez de l'impact de l'évolution de l'industrie pornographique sur les contenus de ces productions qui mettent en scène des pratiques de plus en plus violentes. Ovidie, au fond, comment se fabrique un fantasme?
Comment se fabrique un fantasme? Ah, ça, c'est une vaste, c'est une question compliquée. Je peux répondre peut-être, je peux essayer de répondre à comment se fabrique un modèle plutôt qu'un fantasme. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux représentations de la sexualité. Ce qui m'intéresse, c'est déconstruire les représentations, pas déconstruire la sexualité en tant que telle. Et comment se construire un modèle? Ben, un matraquage, je dirais, un ensemble de représentations qui sont récurrentes.
Elles sont les impositions, en fait.
Et qui se transforment, de fait, en diktat, ensuite. Parce que forcément, c'est un impact sur ce qu'on voit sur un écran, ou ce qu'on voit dans un abribus, ou ce qu'on voit dans notre environnement culturel ou médiatique, en fait, a forcément un impact sur nos rapports intimes et sur ce qui se passe dans notre chambre à coucher. Or, on ne pense pas assez la dimension politique de ce qui se passe dans notre chambre à coucher.
Et justement, une fois que c'est profondément ancré, enraciné dans une société, dans quelle mesure c'est possible de le faire voler en éclats?
Déjà, en modifiant les représentations. Ça, c'est un début, en fait. Juste essayer de représenter autre chose. Représenter, par exemple, des contre-images, des contre-discours, des contre-cultures, quelque part. Je pense que c'est comme ça que ça commence. Après, si j'avais une baguette magique, si j'avais un remède miracle, je vous la donnerais. Mais je l'ai pas, en fait.
Le seul fantasme qu'on peut faire dans le porno, c'est de faire du porno. C'est les situations violentes, difficiles, où son image personnelle est complètement écrabouillée, réduite à néant. On est vraiment d'un paquet de viande. Je prenais vachement comme d'y arriver, quoi, aussi. Personne m'a obligée à faire ça. C'est que ça me plaisait, personne ne m'a jamais obligée. Mais c'est faut avoir un caractère un peu bizarre pour faire ça, c'est sûr. Faut ravaler ses rancœurs, pas avoir peur de pleurer. Il faut du courage. Peut-être que le porno, c'était mon service militaire.
C'est une archive très forte. Catherine Ringer d'Erita Mitsuko en 1986 au micro de Mireille Dumas. Et c'est vous, Ovidie, qui avez voulu entendre cette archive, cette expression de service militaire.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous évoque?
Alors, déjà, moi, j'admire beaucoup le parcours de Catherine Ringer. Ce que ça m'évoque, le service militaire, je trouve ça intéressant parce que ça se passe à peu près au même âge, en fait. C'est à la sortie de l'adolescence, finalement, quand on se croit adulte mais qu'on l'est pas complètement, et où tout à coup on se transforme en chair à canon, par exemple, mais aussi en viande. Enfin, je veux dire, on est dans le même registre sémantique. D'ailleurs, elle emploie là le terme viande. Mais il y a quelque chose qui est qui relève du rite de passage, vraiment. Moi, j'ai l'impression de l'entrée dans l'âge adulte. Je trouve ça intéressant. Après, Catherine Ringer, moi, je suis reconnaissante. Alors, je sais qu'elle aime pas qu'on lui rappelle ça, et je comprends, parce que moi, j'aime pas qu'on me rappelle ça non plus, en fait. Mais elle m'a aidée sans le savoir, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années, ça lui a un peu passé, mais ma fille était fan d'Erita Mitsuko. Elle a été fan pendant plusieurs années, mais très, 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 très fan. Et arrive un moment, quand elle est en cinquième, quatrième, où elle savait que moi je réalisais des choses, etc., etc. Elle savait que j'avais une image médiatique, mais elle savait pas ce que j'avais fait avant sa naissance. Et il y a eu un jour où, je sais pas, on parlait de Catherine Ringer, je dis, mais tu sais, voilà, elle a fait ce genre de film, etc. Et il y a eu un grand silence. Mais c'était une façon de tester aussi pour voir comment elle pourrait réagir à ce genre d'idée. Il y a eu un très grand silence, comme ça, et je me suis dit, merde, je suis en train de la choquer. Et là, elle me dit, mais quand ça s'est su, les journalistes ont dû l'embêter. Et là, je me suis dit, c'est gagné. Et ce sera jamais un problème entre elle et moi, en fait. Je me suis dit, c'est gagné, elle a tout compris. Et c'est quelque part, indirectement, grâce à Catherine Ringer, que peut-être que les choses se sont bien passées de mon côté à ce niveau-là.
Mais comme toujours, c'est ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est quelque chose que vous interrogez sans cesse. Récemment, Ovidie, vous vous exprimiez sur le contenu de votre page Wikipédia et sur les images et les articles associés à votre nom sur Internet et qui souvent se concentrent sur la pornographie sans mentionner tout le reste. Et vous disiez, je cite, « Je devrais m'en foutre, le problème c'est que c'est ça l'image qu'on laisse aux autres. Ouais. Cette image qui ne nous appartient plus. Se voir ainsi dépossédé de son image. » C'est ce que vous dites hein, comme expérience. Quelle violence est-ce que c'est ?
C'est... J'ai vraiment parfois l'impression, quand je lis parfois des articles sur moi et surtout ma page Wikipédia qui est au-delà du réel.
Et qui est fausse surtout.
Mais qui est fausse. En plus, il y a plein d'erreurs, des approximations et puis surtout un décalage total entre tout le travail que je peux faire depuis 15 ans. Enfin, ça fait plus de 10 ans maintenant que je réalise des documentaires pour service public, documentaires radio, documentaires télé, etc. Mais ça, ça passe vraiment très rapidement. En revanche, ils vont passer 10 lignes à se poser la question de est-ce que je tourne des préservatifs ou pas. Enfin, c'est complètement fou. Et moi, j'ai l'impression, j'ai ce truc d'étrange jeter à moi-même, ou quand je lis par exemple ce genre de choses, je me dis, ce n'est pas de moi dont il est question en fait. Déjà, j'ai un problème. J'ai la double identité, qui est qu'il y a moi et il y a Ovidie, qui est le personnage que j'ai créé. Donc déjà, il faut vivre avec cette double identité. Mais il y a en plus cette Ovidie qui se divise en deux, qui est l'Ovidie qui est celle que les gens retiennent aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est pas de moi dont il est question. Et cette page Wikipédia, je l'ai relue il y a quelques jours, effectivement, et je me disais, mais c'est désolant. Ça m'a fait de la peine, faut bien le dire. Et c'est d'autant plus bizarre qu'en ce moment, je suis en train de retaper mon CV scientifique, on va dire, parce que j'ai aussi des activités scientifiques.
Mais oui.
Et je me disais, waouh, mon CV scientifique, j'ai quand même pas mal de publications. Donc mon CV sous mon vrai nom, quoi, pas le nom d'Ovidie. Je me disais, quand même, c'est pas mal, tout ce que je fais. Et pour moi, il y avait un décalage terrible entre ce CV scientifique qui est hyper carré, hyper béton, et la page Wikipédia de merde. Et je me dis, mais quelle image, si je crève là demain, qu'est-ce que je vais laisser, quoi? Qu'est-ce que je vais léguer, en fait?
Oui, mais attendez, c'est intéressant. Que ce soit précisément cet élément de votre passé qui soit mis en lumière, qu'est-ce que ça dit du regard qui est encore porté sur les femmes, sur leur corps, sur leur sexualité?
Bah, ça dit qu'il faut punir les femmes comme moi, et que même 20 ans après, rendez-vous compte que j'ai quand même le double de l'âge que j'avais au moment où j'ai arrêté, en fait.
Et surtout, ça représente très peu de temps, en réalité, dans votre vie.
Ben, par rapport au temps que je passe, ne serait-ce qu'en montage sur le moindre documentaire, c'est minime. Finalement, si on met bout à bout le nombre de jours que j'ai passé sur des tours, je ne suis pas en train de minimiser, je ne suis pas en train de dire, oh là, mon Dieu, c'était pas moi, j'ai fait ça avec mon copain, je ne suis pas en train d'avoir ce genre de discours, hein. Attention. Mais il n'empêche que quand on met tout bout à bout, pour moi, c'est aussi anecdotique que si on me disait, t'as fait un doc de philo. Pour moi, c'est aussi anecdotique que ça, c'est-à-dire, oui, j'ai fait un doc de philo, mais après, j'ai fait plein d'autres trucs et machin. Enfin, ce qui me blesse, c'est que c'est comme si le reste n'existait pas, alors que quand même, j'ai taffé, quoi. Ces 15 dernières années, j'ai vraiment taffé. Et c'est comme si tout ça n'avait aucune valeur, parce que la seule chose à laquelle je peux être amenée, c'est ma corporéité.
Celle qui a encore du chemin à parcourir dans cette émission où la connaissez, Ovidie, c'est évidemment la culture. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 4 novembre?
Donc le Goncourt 2021 a été attribué à Mohamed Mbogar Sarr pour son roman publié aux éditions Philippe Ray, Jim San, La plus secrète mémoire des hommes.
Les belles lettres africaines hier, deux des plus prestigieux prix littéraires européens ont été décernés coup sur coup. Ici, le jeune écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a reçu le Goncourt pour son roman La plus secrète mémoire des hommes, coédité donc par Philippe Ray et la maison d'édition sénégalaise Jim San. Tandis que de l'autre côté de la Manche, le Booker Prize a été attribué à Damon Galgut pour sa fiction The Promises sur une famille de fermiers blancs dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Publiée en France aux éditions de l'Olivier, l'auteur a salué une grande année pour la littérature africaine après le prix Nobel d'Abdulrazak Gourna. Allez là. Game is on chez Netflix. Le géant du streaming a annoncé hier le lancement mondial de plusieurs jeux vidéo mobiles pour ses abonnés, disponibles gratuitement et sans pub sur téléphone et tablette Android. 5 titres sont proposés pour l'instant, dont 2 sont inspirés directement de l'univers horrifique de la série Stranger Things. Une manière pour Netflix de se diversifier alors que la concurrence s'intensifie sur le marché du streaming. Une manière aussi d'investir doucement un secteur qui pèse plus de 300 milliards de dollars dans le monde. Projo sur les réseaux, fondé l'année dernière, le festival de très courts métrages Une Minute de Cours lance dès aujourd'hui sa deuxième édition avec un principe original. Dès ce soir, 19h, les 50 mini-films de moins d'une minute retenus dans leur sélection officielle seront mis en ligne via leur compte Instagram Une Minute de Cours. Ils sont donc visibles par tous, partout, gratuitement. Le thème de cette année, les super-héros. Les lauréats seront révélés dimanche. On y court. Vous l'avez, c'est court métrage. Et c'est parti pour la 6e édition de l'Arte Concert Festival qui se déploie en ligne et à la Gaîté Lyrique à Paris jusqu'à samedi. Au programme de l'événement, 3 soirées de shows éclectiques et de découvertes électriques proposées totalement gratuitement. On pourra notamment se laisser charmer par les rythmes hypnotiques de l'architecte de Blur et Gorillaz Damon Albarn, chalouper sur le groove de Jonas Policewoman ou encore headbanger sur les riffs brits de Shame. Tous les concerts seront retransmis en direct, en streaming et resteront disponibles pendant plusieurs mois sur le site arteconcert.com. Come on! Et l'autrice et réalisatrice Ovidie, invitée de Boomerang ce matin pour Les Cœurs Insolents, ce roman graphique où vous vous replongez dans votre adolescence, mais où vous évoquez aussi votre grossesse, et vous écrivez: quand tu tombes enceinte, c'est comme si ton corps ne t'appartenait plus complètement, comme s'il devenait un bien public. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que j'entends par là, c'est qu'effectivement, il y a une partie de notre corps qui nous appartient plus et tout le monde se permet de d'émettre un jugement sur ce qu'on a dans le ventre et sur notre future parentalité. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombée enceinte, il y a eu, quelques temps après, ma fille était encore petite, il y a eu la manif pour tous, qui a été un grand choc, je pense, pour pas mal de monde aussi, parce que moi, j'avais pas conscience que potentiellement, il pouvait y avoir 1 million de gens dans la rue qui allaient défiler contre les droits d'autres personnes, en fait.
Et non pas comme c'est le cas souvent dans les manifestations, pour les droits.
Normalement, on manifeste pour ses propres droits, quoi. On manifeste pas contre les droits des autres. Enfin, là, c'était quelque chose de massif. Puis en plus, j'habitais à ce moment-là dans l'ouest parisien, donc c'était là, de là que partaient les manifs, on les voyait partir. Moi, j'étais vraiment très, très inquiète parce que je me suis dit, mince, massivement, il y a des millions de gens qui peuvent porter un jugement sur d'autres formes de parentalité. Donc aussi potentiellement la mienne, quelque part, sur toutes les parentalités marginales. Ça veut dire que n'importe quel parent qui soit... Alors là, en l'occurrence, c'était sur la question de l'homosexualité, mais ça veut dire aussi des parents trans, ça veut dire des parents travailleurs ou anciens travailleurs du sexe, ça veut dire tous les parents qui sont un peu à la marge pouvaient être remis en question
surtout,
dans leur légitimité parentale.
Et on pouvait intervenir sur leur corps. Ça me fait penser tout de suite à l'un de vos documentaires qui s'appelle « Tu enfantes dans la douleur » sur les violences obstétricales, où vous montrez comment le corps médical s'empare parfois du corps des femmes et perpétue une domination, une oppression en fait.
Oui, et là, en plus, on est en plein dedans hein, sur les violences obstétricales, puisqu'il y a eu très récemment encore un scandale à l'hôpital Tenon, là, il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on en parle un peu plus, de cette question des violences obstétricales. D'ailleurs, on parle de violences obstétricales. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on ne parlait pas de violences obstétricales, on parlait de maltraitance ou je ne sais pas quoi. Le terme violence obstétricale, les gynécologues refusaient, il y a encore 2-3 ans, de l'employer, parce qu'ils estimaient que c'était presque offensant pour eux. Là, aujourd'hui, on commence à utiliser le terme. On voit qu'il y a une évolution sémantique de la chose. Mais ces violences-là, elles sont systémiques. C'est juste la domination finalement du sachant sur le patient. C'est une forme de domination où, dans laquelle on ne demande pas toujours le consentement. Et c'est ça qui, encore une fois, c'est le consentement qui est au cœur de toutes ces réflexions.
Au fond, Ovidie, quand est-ce que vous avez l'impression que votre corps vous appartient entièrement?
Moi, personnellement, je sais pas, quand je fais un peu de sport. Non, quand je sais pas, moi j'ai tendance parfois à me déconnecter de mon corps. Ça c'est mon problème aussi, c'est qu'il y a des périodes où je peux être dans la production de jus de crâne, on va dire, où je vais être en montage ou en écriture ou je sais pas quoi, et je vais oublier que j'ai un corps. Quand je dis que j'ai oublié que j'ai un corps, ça veut dire je vais oublier peut-être de m'alimenter, je vais oublier aussi de prendre du plaisir avec ce corps. Moi, j'ai tendance à me mettre parfois un peu à distance sur des périodes très longues.
C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Et votre désir, est-ce qu'il vous appartient?
Mais mon désir, il est pris. Moi, je suis vachement dans la sublimation en fait. Je sublime, je canalise toute mon énergie, y compris sexuelle, toute ma libido, je la canalise dans la création en fait. Je préfère faire un film que faire l'amour en fait. Vraiment, je préfère être en montage que faire l'amour. Je préfère écrire que faire l'amour.
Parce qu'il y a quand même ce moment passionnant dans Les Cœurs Insolents où vous dites que vous êtes peut-être une hétérosexuelle par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que dans les années 90, et je pense qu'on est un certain nombre de femmes du même âge à avoir vécu ça, c'est que l'homosexualité féminine n'était pas représenté. Et la seule représentation à l'époque, c'était genre Gazon maudit avec Josiane Balasko, ce qui était une représentation qui, moi, ne m'intéressait pas, en fait, en tant que jeune fille. J'avais pas envie d'être comme ça, en fait. C'était pas mon modèle. Et vu que c'était complètement absent, encore une fois, de nos représentations culturelles, il n'y avait pas de... Je sais pas, aujourd'hui, on peut s'identifier à Adèle Haenel ou à Angèle, ou j'en sais rien. Là, il n'y avait aucun modèle où, en tant que jeune fille, je pouvais m'identifier. Et c'est vrai que, parfois, je le dis, ce que je dis dans la BD, je me demande si je pense que je suis une gouine manquée, c'est-à-dire je pense que j'ai été hétérosexuelle par défaut parce que j'habitais en province, parce que j'avais pas trop le choix en fait.
Dans le livre, vous écrivez que la jeunesse a compris aujourd'hui que l'hétérosexualité n'était pas une histoire d'orientation mais un véritable régime politique.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui un autre monde est possible. Quel monde, Ovidie ?
Ben, un monde où on met à mal ce régime politique, où on essaie en tout cas de le destituer. Ce que j'entends par régime politique, c'est que l'hétérosexualité, au-delà de notre orientation sexuelle, c'est un mode de fonctionnement. C'est par exemple ce qui fait que, je sais pas, une femme qui fait du 42 va avoir moins de chances de trouver un boulot qu'une femme qui fait du 38. C'est ce qui fait qu'on va avoir de la sexualité partout, jusque dans les abribus, en fait. C'est ça, en fait, l'hétérosexualité. C'est aussi un système, c'est aussi le travail gratuit. L'hétérosexualité, c'est le travail gratuit domestique. Quand je dis domestique, je compte aussi le travail sexuel domestique. Hein. C'est tout un système, on pourrait en parler pendant des heures, de ce qu'est l'hétérosexualité en tant que régime politique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va au-delà de « Ah tiens, j'ai envie de faire zizi pampan avec machin ». Je veux dire, c'est autre chose. L'hétérosexualité, c'est le socle même de notre société, quelque part. Et tout ça est remis en question. Moi, je le vois, même quand je vois des jeunes gens, que ce soit en lycée ou même quand je donne des cours à la fac, je vois des jeunes gens, je fréquente des jeunes gens toute l'année, et je vois qu'ils sont déjà à 1000 kilomètres de ça, en fait.
Oui, mais si on est honnête, cette jeunesse, elle n'est pas homogène, et l'homophobie, on la voit tous les jours, elle est loin d'avoir disparu, elle continue de tuer, on l'a vu encore avec le suicide de Dina, harcelée jusqu'à la mort, face à ce constat, comment est-ce qu'on peut en croire qu'un autre monde est possible, en fin de compte ?
Laissez-moi être positive deux secondes, ça ne m'arrive pas souvent d'être positive, hein. franchement, ça... mais laissez-moi être positive deux secondes, parce que, ok, c'est un milieu social particulier, les gens que je vois, que je fréquente,
oui.
C'est plutôt milieu middle class, etc., etc. Mais c'est aussi le milieu dans lequel j'ai grandi, moi.
C'est vrai.
Et moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, eh ben non, on ne parlait pas ni d'homophobie, ni de sexisme, ni de harcèlement, ni de slut-shaming, ni de consentement.
Ah, je suis d'accord, on a commencé comme ça.
Donc ça prouve qu'il y a quand même une évolution, mine de rien. Puisque ce milieu-là, ok, c'est pas homogène, puis de toute façon, on ne va pas dire les jeunes, c'est pas un groupe social,
non.
Les jeunes, ça n'existe pas. Mais... déjà, je vois de milieu social égal, je dirais, je vois déjà une évolution au sein de ce milieu-là. Donc, moi, je suis pas sociologue, hein, je suis pas anthropologue non plus, j'ai pas vocation à dire, voilà, toute la jeunesse évolue dans ce sens-là. Mais je dis que moi, je perçois à mon petit niveau des indices que des choses s'améliorent et j'ai envie de croire que les choses s'améliorent aussi.
On va reparler de monde, mais aussi de jeunesse, de la vôtre, évidemment, et en musique, s'il vous plaît, avec Violet du groupe Hole, mené par Courtney Love, dont vous reproduisez les paroles sur une planche où l'on vous voit, Ovidie, allongé sur votre lit, en train de fumer une cigarette adolescente. On le fait là, on le vit. Allez, on le vit. Magnétophone. Cassette. France Inter, Ovidie, Boomerang, évidemment. All the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Yeah.
France Inter. Boomerang. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire que là, c'est très clair. On est quelque part entre le Sphinx, Françoise Dolto et Barbara. La mèche noire est au-dessus de tout soupçon. Le trait anguleux, le regard perçant, aiguisé, précis. On a envie de lui confier sa vie, de tout lui dire, de lui poser toutes les questions. Et on la sent tout oui, surtout. Avec son pull de marin, ce matin, l'autrice et réalisatrice Ovidie, invitée de Boomerang, pour parler de ces cœurs insolents, plongés dans la France de votre adolescence, portrait en creux d'une génération qui est aussi la mienne. On a le même âge. Au fond, à quelle génération est-ce que vous avez le sentiment qu'on appartient, Ovidie ?
À une génération sans nom, déjà. Moi, il me semble.
Sans lettres, ouais.
Sans lettres, ni Y, ni Z, ni X. Effectivement, il y a eu les baby-boomers qui ont fait 68, il y a eu la génération X. Après, il y a eu la révolution numérique avec les millennials, la génération Z. Et nous, on est une génération sans nom. Et sans identité culturelle propre, je me souviens quand même que, même ne serait-ce que vestimentairement, on était dans un truc néo, c'est-à-dire un mélange de choses, néo-baba, néo-rasta, néo-punk ouais. aussi, puisque le punk était mort.
Et c'est passionnant, parce que vous allez plus loin, vous dites que c'est même une génération qui offre à la postérité l'image d'une jeunesse qui n'a rien fait de majeur.
C'est vrai. On n'a rien fait, cette jeunesse-là n'a rien fait de majeur. Et même musicalement, c'était pas... Bon, là, on a écouté Hall. J'avoue que Hall, je l'ai écouté mais mille fois dans ma petite chambre, quoi. Mais c'était ça, c'est-à-dire, oui, voilà, il y avait tout ce mouvement de Seattle qu'on appelait grunge, et le terme était débile, rétrospectivement parlant. Mais à part ça... Il s'est pas passé grand chose. C'était une période de récupération du hip-hop aussi. Enfin, c'était une période assez à chier quand même. On était sur la fin de l'Eurodance. Enfin, c'était terrible.
Mais pourtant, vous étiez très engagée politiquement. Ouais. Vous avez été militante. Vous étiez dans l'action, Ovidie.
Pour moi, ce qui a été un événement fondateur, je dirais, de ma vie, ça a été les mouvements d'hiver 95, les mouvements contre le plan Juppé. Et ça a été des semaines de manifestations partout en France. Et vraiment, moi, j'avais 15 ans à ce moment-là, en 95, et j'avais l'impression qu'on faisait la révolution. J'étais persuadée que ça y est, on y était.
Et c'était l'idée, justement, de participer à un mouvement, à un combat, à une action qui marquerait votre époque.
Mais déjà, c'était participer à quelque chose de collectif, ce que moi, je n'avais jamais vécu jusqu'alors. Et il y a quelque chose d'extrêmement grisant de faire partie d'un événement collectif d'une façon générale.
Dans les cœurs insolents, Ovidie, il y a un fantôme. Il y a une présence qui n'est pas nommée. C'est votre frère. Qui était-il, ce frère ?
Il était plus vieux que moi, déjà. Il avait une douzaine d'années de plus que moi. C'était quelqu'un de très sensible, c'était pas la masculinité toxique justement, c'est quelqu'un qui a pris énormément soin de moi et qui effectivement, à la fin, je le nomme pas mais bon, comprenne qui pourra, il disparaît. Il disparaît et parce qu'il a disparu quand j'avais 16 ans en fait. Et je pense que j'ai passé toute ma vie ensuite à le chercher dans, par exemple, les hommes. Je parle pas de rencontres amoureuses, je parle dans les hommes que je rencontre. Et de fait, autour de moi, il y a... Alors c'est marrant quand même pour une féministe qui dit qu'elle peut pas blairer les mecs. Autour de moi, il y a quand même beaucoup d'hommes qui comptent pour moi et avec qui j'ai un rapport très fraternel, dans le sens où c'est un amour infini, mais sans sexualité et sans désir et sans quoi que ce soit. Et j'ai passé un peu, et même encore, je passe un peu ma vie à chercher... À chercher un frère ou chercher des frères.
C'est beau ce que vous dites. Se peut-il que sa disparition ait aussi provoqué en vous l'apparition d'un devoir qui serait le devoir de vivre pour deux ?
Pour deux. Moi, je considère que j'ai ce devoir de vivre pour deux puisque j'ai compris très jeune, dès l'âge de 16 ans, qu'on pouvait crever jeune et que j'avais une exigence, déjà moi, de ne pas perdre de temps, ce qui fait peut-être aussi que j'ai vachement bossé, j'ai fait pas mal de trucs quand même, mine de rien, de trucs pas toujours terribles, hein, franchement, mais j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie, on peut pas me retirer ça. Et je pense que c'est ça, je pense que j'ai ce devoir déjà de meubler ma vie au maximum, sans temps mort, et de vivre pour lui. Alors c'est compliqué, mais mon corps, c'est une forme de mausolée sororale. Il est en moi et je vis pour lui.
Si vous aviez face à vous l'adolescente que vous étiez à 16 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je sais ce que vous lui diriez, parce que vous avez un texte avec vous aujourd'hui.
Je vous le lise ?
Je viens.
Ce que je veux te dire, Héloïse, puisque je m'appelle Héloïse, ce que je veux te dire, Héloïse, ce que tu ne peux entendre du haut de tes 16 ans, c'est que tu feras bon usage de cette douleur. Je ne te dis pas que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort parce que c'est de la connerie. Ce qui ne tue pas affaiblit, détruit une partie de toi. Je ne peux pas te promettre que tu t'en remettras complètement, ce serait te mentir. Mais tu vivras avec et tu en feras quelque chose. Tu t'en serviras comme force créatrice. Tu trouveras des exutoires, pas toujours glorieux, mais tu convertiras ce deuil en urgence de vivre. Pour le moment, tu souffres, à ta façon, c'est-à-dire en silence. Mais tu trouveras suffisamment de ressources pour faire de ta vie ton propre roman. Tu apprendras à réinventer ton destin, te tromper parfois, mais toujours avancer. Tu feras en sorte que rien ni personne ne te dicte une conduite, parce que tu sauras à quel point il est aisé de crever jeune. Tu écriras, sublimeras, embrasseras, voyageras, filmeras, militeras, enfanteras. Tu feras en sorte que chaque jour soit encore plus surprenant et encore plus improbable surtout que le précédent. Tu iras là où on ne t'attend pas. Tout ce que tu feras ne sera pas nécessairement brillant, parfois même ce sera franchement médiocre, mais sois indulgente envers toi-même, car ce n'est pas donné à tout le monde, tu sais, de devenir sa propre héroïne. Il ne reviendra pas, cesse de l'attendre, de le guetter dans la rue. Il est parti, alors tu vivras pour deux, tu vivras pour lui, ton corps comme mausolée sororal.
Tu vivras tout court, en fait.
Ouais.
Quelle héroïne est-ce que vous êtes, en fin de compte, Ovidie ?
Une héroïne improbable qui fait plein de conneries mais et qui fait parfois des trucs bien et qui parfois fait des trucs mais en fait souvent quand je pense à ma vie je me dis essaie de te faire rire un peu toi-même. Donc parfois je me fais rire comme par exemple quand j'organise je sais pas le festival international du film de chien ou des trucs comme ça, parfois j'essaie de faire des trucs où j'essaie de me faire rigoler un peu quoi. J'essaie d'être mon propre public aussi, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais non, je sais pas quelle héroïne, bah déjà juste quelqu'un qui essaie de prendre son destin en main. Après, comme je le dis, c'est pas toujours glorieux. Hein. J'ai même franchement fait de la merde par moment. Mais j'ai pas fait que de la merde.
Moi, le mot qui me frappe le plus dans votre texte, c'est le mot indulgence, en fait. Ouais. Sois indulgente avec toi-même. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire déjà de pas être dans la performance et la réussite et tout ça. Ça veut dire qu'on a le droit de se tromper aussi. On a le droit de dire des conneries. On a le droit de faire des conneries. On a le droit d'échouer aussi. C'est ça que j'entends par sois indulgente envers toi-même. Quand je fais parfois le bilan de ma vie ou peut-être de ces 20 dernières années, je me dis, oh, il y a des trucs, mais qu'est-ce que c'est nul. Et puis il y a des trucs où je me dis, attends, sois quand même fière de toi. T'as fait quand même des choses qui sont pas si. Parfois j'en viens à douter, mais parce qu'on me renvoie une image tellement dégueulasse de moi-même que parfois j'en viens à douter, mais parfois je me dis, j'ai quand même fait des trucs pas mal. Je suis docteur quand même, merde. C'est pas rien, quoi. Mais donc voilà, sois indulgente envers toi-même, c'est-à-dire ne reste pas bloqué non plus sur tes échecs.
Merci, docteur Ovidie, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les Cœurs Insolents, illustré par Audrey Lainé, est publié aux éditions Marabule, et que c'est très brillant, c'est très instructif, c'est très émouvant aussi. Tout de suite, les médias, Eva Rock. L'instant même, ça va, Eva?
Mais ça va très bien. Je vous embrasse, Augustin Trapenard. Passez une très bonne journée et j'embrasse Ovidie.
Ben, on prend, nous les embrassons. On est comme ça, dans Boomerang. Caresse. Salut,
à tout
Eva,
de suite,
demain.
Salut. Bye.